Cette fois-ci, c'est vous qui allez commencer l'épisode. Qu'est-ce qui vous fait peur? Je vous laisse quelques minutes pour faire la liste, mais je suis sûre qu'on va retrouver des peurs mentales, des peurs plus physiques, plus concrètes, des peurs aussi basées sur des projections et puis d'autres sur votre instinct de survie. Par exemple, les peurs mentales, c'est la peur de l'abandon, alors que des peurs physiques, elles, vont être liées à des choses plus palpables. Il y a aussi donc les projections qui, elles, naissent de scénarios catastrophes qu'on s'imagine dans nos petits cerveaux. Et à l'inverse, l'instinct de survie qui va nous faire paniquer à la vue d'une menace concrète pour notre vie. Bref, je suis sûre que dans vos listes, il y a un peu de tout ça. Nos peurs, elles prennent des formes différentes et elles évoluent au fil du temps. Il y a des peurs qui sont ancrées, qui vont rester sur la durée, et puis il y a celles qui s'envolent à la première expérience positive qui prouve qu'elles n'ont rien à faire là. Perso, j'ai pas mal de peurs qui sont liées à des situations ou à des objets physiques. Et je sais que j'ai ces peurs-là parce que j'ai conscience que je suis pas sportive. Genre, quand il y a une bourrasque devant, je recule de quelques pas. Je suis aussi hyper myope, genre vraiment myope comme une taupe, c'est un scandale de voir aussi flou. Donc... je pars avec des points de malus dans la vie qui font que j'ai vachement plus peur de choses, encore une fois, concrètes. Typiquement, j'ai eu peur du noir pendant des années à en hurler la nuit. Et c'était déjà à cause du fait d'être myope. C'était pas une projection de me dire qu'il allait avoir un monstre qui allait sortir de sous mon lit. J'avais vraiment peur parce que je ne voyais plus l'espace autour de moi. Et déjà, en temps normal, je ne vois pas l'espace autour de moi. C'est très compliqué d'évaluer les distances, de voir les formes autour de moi quand je n'ai pas mes lentilles ou mes lunettes. Alors me déplacer dans le noir, c'est vraiment un enfer. J'ai zéro notion de l'espace et ça me crée des angoisses. Mais comme pour tous les gamins, la peur du noir, elle est passée, c'était pas une peur ancrée. Je me suis vite rendu compte que déjà la nuit, c'est fait pour dormir, pas pour me déplacer dans ma chambre. Donc à partir de là, je n'avais pas besoin d'avoir conscience de l'espace et ça allait beaucoup mieux d'année en année en travaillant un peu dessus. Je trouve que ce côté travailler sur sa peur, etc., c'est quelque chose qu'on aperçoit beaucoup, notamment dans le dev perso, ce truc d'inciter les gens à affronter leur peur pour s'en débarrasser. On prône ce côté finalement sans peur, et je peux comprendre dans une certaine mesure, quand c'est des peurs irrationnelles ou qui nous empêchent de faire certaines choses dont on a vraiment envie, ça peut valoir le coup de les affronter. J'ai fait ça avec ma peur des chiens. Parce que oui, j'avais peur des chiens, comme je vous ai dit, j'ai des peurs physiques. Et franchement, entre un molosse et moi, je sais très bien qui gagne à la bagarre, et c'est pas moi. Donc ça faisait que j'étais très paniquée, très anxieuse à la vue des chiens, notamment les chiens qui jouent. C'est un truc qui même encore aujourd'hui me fait peur et me rassure pas des masses. J'aime pas voir des chiens grogner et s'attraper à la gorge, ça me fait vraiment peur. Mais à un moment, ça avait atteint un tel stade que je changeais de trottoir devant même des golden retrievers, quoi. Le truc débile, alors que j'adore les animaux. Et en plus de ça, j'avais beau fuir les chiens, de toute évidence, je suis leur BFF dans la vie, puisqu'ils me fonçaient dessus systématiquement. Et c'est d'ailleurs toujours le cas. Donc c'était plus conciliable de ne pas pouvoir me déplacer dans la rue sans avoir peur. Et je me suis dit qu'il fallait que j'affronte, en fait, cette peur assez ridicule. J'ai pris mon courage à deux mains et j'avais été dans un café à chiens à Lille. C'est d'ailleurs le tout premier épisode de ce podcast et je vais vous glisser le lien dans les notes de l'épisode. Mais je me suis confrontée à des chiens dans un espace fermé, des chiens qui jouaient, d'autres qui faisaient juste leur vie. Et je suis super contente de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, j'ai un plaisir fou déjà à pouvoir courir au parc avec le corgi de mes amis, à gratter des petites têtes de toutous trop mignons en terrasse et même à couiner dès que je vois un chien passer. Enfin voilà, sur cette partie-là, je sais que maintenant, je suis réconciliée avec les chiens. Je sais ce qui me fait toujours peur chez eux, c'est les comportements de jeu, mais j'ai un peu la même chose avec beaucoup d'animaux. Et encore une fois, c'est parce que je sais que si jamais, pour X raison, ça tourne mal ou ça tourne contre moi, j'ai pas le dessus dans la situation. Bref, cette peur-là, ça valait le coup de l'affronter. Mais je suis pas d'accord avec l'injonction à affronter toutes ces peurs, peu importe ce qu'on ressent. S'il y a une peur qui est là, c'est aussi pour une raison, et il faut savoir reconnaître ses propres limites, et puis les embrasser. Je pense que les gens qui vivent sans peur, ils n'ont pas vraiment conscience de la valeur de la vie et de ce qui les entoure aussi. Avoir peur, c'est aussi avoir conscience de son environnement, c'est un signal qui vient des tripes et qu'il faut écouter aussi, pas forcément combattre. ça fait pas de vous quelqu'un de faible. Voilà, si vous avez conscience que vous avez des peurs, et au contraire, quand on sent pas une situation, je pense que faut pas se forcer. Ça sert à rien de se mettre en danger pour le plaisir. Et il faut s'écouter d'abord. Ça, je m'en suis rendu compte à un enterrement de vie de jeune fille. Alors, enterrement de vie de jeune fille, promis, personne n'a pris de risque démesuré, on a enterré personne, ça s'est très bien passé. Mais les organisateurs avaient prévu en fait un parcours indoor, donc en gros, pendant 1h30, on allait courir et grimper partout, répondre à des questions et faire des épreuves de rapidité et d'agilité en groupe. C'était assez physique et ça se terminait par un parcours d'acrobranche au-dessus de toutes les autres activités dans l'obscurité d'un grand hangar. Donc voilà, pas beaucoup de lumière, on passait au-dessus des gens. Sauf qu'il faut savoir que j'ai le vertige. Voilà, ça fait partie de mes peurs ancrées depuis toujours. J'ai le vertige. La dernière fois que j'ai fait de l'acrobranche, je devais avoir genre 14 ans et j'ai fondu en larmes en étant à 1 mètre du sol. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais cette fois-ci, quand ils l'ont proposé, j'avais vraiment envie déjà de prendre part à toutes les activités de ce week-end pour être auprès de mon amie, parce que c'est un moment important pour elle. Et puis je l'ai senti. Je me suis dit, vas-y, ça se tente. Ça fait des années que t'en as pas fait. Au pire, t'arrêteras, mais j'ai quand même pas mal changé, donc potentiellement ça passe. Alors j'ai dit oui. On a fait le parcours, ça se passait très bien, et puis on arrive à l'étape de l'acrobranche, et là on m'enfile le harnais, et je comprends qu'il va falloir que je me lance et que je le fasse pour de vrai. J'ai évidemment prévenu les autres de mon équipe que voilà, j'ai le vertige, potentiellement je vais friser à un moment ou abandonner. Je sais pas si j'en suis capable, j'ai très peur, mais ça va le faire. Ils ont été adorables, c'était des gens que je connaissais pas avant, qui m'ont encouragé, qui ont été trop mignons, enfin vraiment, ça a joué, je pense, pour beaucoup aussi. Et j'ai commencé le parcours. Ça commençait donc du coup avec une passerelle qui est hyper basique, hein. Voilà, vous avez des cordes sur les côtés pour attraper avec vos mains et vous avez la petite passerelle planche par planche, pas d'enjeu, il suffit d'avancer. J'ai traversé d'une traite en me disant que j'allais crever, ça s'est très bien passé, j'ai enchaîné avec les deux autres étapes. Ça restait faisable en fait, il n'y avait pas besoin de regarder ses pieds pour faire attention à où est-ce qu'on les posait, il y avait des cordes sur les côtés pour vraiment s'agripper, enfin des trucs très rassurants finalement. Et puis, à la moitié du parcours, le niveau change. Pour les trois dernières étapes, on est sur un autre niveau. Il n'y a plus de prise pour les mains, il y a des trous, je mets des gros guillemets, à sauter. Toute mesure gardée, hein. Mais voilà, il y a des trucs plus physiques. Et j'avais beau savoir que je ne risquais rien avec mon petit harnais, mon corps s'est tout simplement figé en posant le pied sur la première plateforme. J'étais incapable de bouger en fait. J'ai fait demi-tour, j'ai ensuite essayé d'avancer sur une autre partie du parcours en me disant bon, c'est pas grave, je passe par... Là en l'occurrence c'était une poutre métallique. Mais pareil, il n'y avait rien pour s'accrocher au niveau des mains et j'ai pas été capable de faire plus d'un pas. En fait, j'avais regardé en bas. Et des mètres sous mes pieds, il y avait des gens tout petits en train de courir d'une activité à l'autre, comme ce que nous on avait fait avant. Et c'était fini quoi. J'étais vraiment incapable d'avancer, j'ai pris la sortie avec un magnifique game over marqué dessus. Et du coup, sur le coup, je m'en suis un petit peu voulu d'avoir arrêté à mi-parcours. Parce que bah voilà, j'ai le vertige et que ça m'agace d'avoir le vertige, parce que je sais que c'est une peur totalement... infondée, même si elle vient d'un instinct de survie qui est « je n'ai pas envie de finir des mètres en dessous, quoi ». Mais ce qui est chouette, c'est que j'ai très vite relativisé. En fait, j'avais fait la moitié du parcours. C'est le genre de truc dont j'aurais été incapable il y a quelques années. Et je me suis écoutée. J'ai mis mes limites. Mes limites, c'était 50% du parcours. En fait, j'ai fait le max et j'étais pas capable d'aller plus loin et je suis trop fière de l'avoir fait. Et encore une fois, les gens avec qui j'étais ont été adorables et m'ont fait prendre conscience que j'avais réussi à faire ça avec quand même pas mal d'aisance et de rapidité alors que j'ai le vertige. Donc c'est déjà en fait énorme pour moi. En plus, au même moment, j'ai croisé un des gars de l'autre équipe avec qui on était, qui lui avait carrément quitté le parcours dès le début. Il avait pas l'air bouleversé par cet échec, pour lui c'était normal, il l'a pas senti, il a arrêté. Et en fait, ouais, il a raison, c'est pas un échec, c'est genre juste... t'as pas envie de continuer parce que ça te fait plus souffrir qu'autre chose, bah tu arrêtes. Et c'est un enseignement tellement précieux. Écoutez-vous. Se connaître, c'est aussi connaître ses limites. Et c'est être capable de se ressentir et de dire non. D'ailleurs, dire non, c'est encore un autre sujet. Je pense que j'en ferai un épisode à part entière parce que je suis pas très douée là-dedans. Mais voilà, arriver à se dire non, à dire non pour se préserver. On a tous des peurs, c'est humain, et chacun a ses limites à différents niveaux. Le fait est que depuis toujours, on a des héros mythologiques, des grandes figures historiques qui sont embellies dans tous les sens par les récits. On a des héros de films d'action qui ont peur de rien, qui foncent, ils ont du cran, et qui nous montrent une espèce de modèle de ce que c'est, en fait, d'être fort. On est facilement catégorisé de flippettes si on n'a pas ce cran-là, ou de femmelettes puisque nous sommes dans une société sexiste, voilà. Mais être sans faille, c'est vraiment présenté donc comme une force, et c'est une des reçues que j'ai envie d'envoyer bouler en fait dans cet épisode. Avoir des failles, et le terme faille, il n'est pas forcément adapté, enfin, c'est très connoté négativement, alors que avoir des peurs, les comprendre, et surtout savoir jusqu'où on peut aller, en sachant que ces limites, elles vont aussi évoluer avec l'âge, avec l'expérience, avec l'entourage, enfin, voilà. C'est, je trouve, vachement plus fort que d'être fonceur, tête brûlée, et de ne pas avoir conscience de quoi que ce soit, et en fait, même avoir conscience de ses peurs, finalement, c'est la base de toute stratégie. Quand on connaît un terrain dans le moindre détail, justement dans la moindre crevasse, on peut mieux l'exploiter, et prendre très rapidement le dessus par rapport à quelqu'un qui va foncer et puis pas voir que bah, là il y a un trou, là il y a un marécage. Ouais, on est parti sur une analogie mi-militaire, mi-paysagiste, mais je pense que pour prendre un exemple plus pragmatique, quand on se connaît soi-même, on sait là où on est rassuré et là où on a pour le coup bah, des insécurités aussi, liées à la peur, à d'autres choses. Ça permet d'avoir de la répartie, ça permet de désamorcer des situations, ça permet de s'en protéger aussi, et ça nous rend vachement plus forts, encore une fois. On ne se blinde pas, mais on ne fait pas semblant. On connaît ses peurs, ses forces, ses limites, et tout ça, ça nourrit, selon moi en tout cas, la confiance en soi. Parce que dans bon nombre de peurs, ce qui se joue, c'est vraiment notre confiance en nous. J'ai peur du vide, parce que je ne me fais pas confiance pour être capable de marcher droit sans tomber. Il ou elle a peur bah, de l'abandon, c'était un des exemples au début, parce qu'il ne se fait pas confiance pour être sa meilleure compagnie. Vous avez peut-être peur des fonds marins, parce que vous ne faites pas suffisamment confiance pour nager bien et vite afin d'échapper à un énorme poulpe de 800 mètres qui sortirait magiquement des abysses, que vous imaginez totalement hein, en regardant le bleu infini sous vous. Voilà, vous ne faites pas confiance physiquement pour avoir le dessus par rapport à ce poulpe, et c'est tout à fait légitime. Parce que oui, dans certains cas, c'est fondé, et puis dans d'autres, pas du tout. Mais peu importe, dans tous les cas, en fait, connaître cette partie de soi, ça vient nourrir notre relation à nous-mêmes. Les sportifs, ils en parlent super bien, je trouve. J'ai regardé là récemment une vidéo de Manon Lanza, qui est une meuf qui enchaîne le surf, skate, moto, elle participe au GP Explorer, elle fait vraiment de... des sports à sensations fortes, de haut niveau, et elle le dit très bien en fait. Elle connaît ses limites, elle sait quand elle doit s'arrêter, quand elle doit aussi se ressourcer pour mieux réattaquer une activité, et quand le challenge et l'adrénaline valent vraiment le coup de se lancer. C'est des personnes comme elle en fait qui me fascinent et que je trouve beaucoup plus intéressantes que des héros tout lisses qui auraient peur de rien, quoi. Pour conclure cet épisode, j'ai envie de vous dire « nouez avec vos peurs ». Défiez-les de temps en temps si vous le sentez, comme moi j'ai senti que j'étais capable de tester l'acrobranche à nouveau. Et n'oubliez pas que, en fait, vos peurs viennent vraiment vous nourrir et vous renforcer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le fait de les mettre sous le tapis, ça va pas vous aider, alors que si vous les avez à côté de vous, aussi désagréables et effrayantes soient-elles, en fait elles sont là, elles sont assumées, elles existent, et ça les rend déjà un peu moins fortes, le fait qu'elles soient là. Vous, par contre, ça vous renforce énormément, parce que vous savez ce qu'il y a avec vous, et vous ne vous cachez pas derrière. C'est un peu la même chose qu'avec les émotions, et la peur en fait partie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner au Clo-Clo Club sur les plateformes d'écoute, me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcasts, me suivre sur les réseaux sociaux @Clo-Clo Club, et puis partager le podcast autour de vous. Moi, je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye !